France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
En janvier, un rapport de l'ONU tirait la sonnette d'alarme. Nous ne sommes plus dans une simple crise de l'eau douce, mais bien entrés dans une faillite mondiale de l'eau. En quoi cette situation concerne-t-elle l'ensemble de la planète ? Aujourd'hui, l'accès à l'eau potable est de plus en plus difficile. Près des trois quarts de l'humanité vivent en situation hydrique précaire. Les prélèvements d'eau ont été multipliés par 3 en 60 ans. Et d'ici 2050, la seule demande urbaine devrait bondir de 80%. Trois moteurs s'emballent simultanément. Démographie, urbanisation rapide et changement climatique. Ajoutez à cela une consommation invisible. Il faut jusqu'à 700 litres pour produire 1 kg de viande de bœuf et 10 000 litres pour un gin. Dès lors, quels sont les perspectives pour cette heure bleue? Faillite hydrique, la grande liquidation. Agnès Ducharme, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes climatologue et hydrologue, directrice de recherche CNRS dans le laboratoire Métis de Sorbonne Université IPSL. Christelle Marlin, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes chercheuse en hydrogéologie et en géochimie à l'Université Paris-Saclay dans le même laboratoire. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et merci à vous pour votre écoute également en direct ou à toute heure en podcast. Nous aussi, nous sommes à votre écoute, vous pouvez partager avec nous sur notre compte sur Blue Sky. Tous les jours, on est là pour vous sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quel diagnostic peut-on faire de cette faillite hydrique? Quelles sont les zones du globe les plus touchées par l'assèchement? Et quelles sont les solutions qui peuvent être apportées? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, un premier mot sur ce rapport de l'ONU, Agnès Ducharme. Selon ce rapport, voilà, la planète vit au-dessus de ses moyens en eau. Il théorise ce concept de faillite hydrique. Alors, ça veut dire qu'on est passé de stress, tension sur l'eau, à crise de l'eau et à faillite hydrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle nomenclature?
Je trouve que c'est lumineux, en fait. J'ai beaucoup aimé lire ce rapport. Il mettait en mots des concepts que, en tant que hydrologue et climatologue, ça fait des années que je constate, et tous mes collègues avec moi. Et l'idée, vraiment, c'est par analogie avec l'économie, qui est sans doute plus familière aux gens que l'hydrologie, de montrer à quel point, si on peut faire, quand on a besoin de ressources en eau, on va s'adresser au cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau amène régulièrement de l'eau douce pour nos usages de nos sociétés humaines dans un bassin versant. Et c'est l'équivalent d'un salaire, parce que ça revient régulièrement. Et puis, si on veut s'acheter un truc spécial, faire une activité particulière, développer quelque chose, on peut avoir besoin de plus d'eau que ce que notre salaire nous apporte. À ce moment-là, on va demander à son banquier un prêt ou on va utiliser ses économies. Et dans le cycle de l'eau, ces économies, ce crédit va être apporté par les eaux souterraines, par les glaciers. Il y a des stocks naturels qui peuvent être mobilisés, mais pas au-delà d'une certaine limite. Et si on demande trop et trop longtemps et qu'on n'arrive pas à rembourser, le banquier nous dit stop, c'est fini, il faut que vous diminuiez votre consommation d'eau, et c'est ce qui se passe dans les zones en faillite hydrique.
Ouais, voilà, on vit
la moitié de la planète.
On vit sur nos économies, on peut même presque dire que la planète vit à crédit. Ça aussi, c'est un autre concept. Ça me fait penser également au concept de, justement, des limites planétaires. Christelle Marlin, parce que le concept de crise de l'eau, ça suggère quelque chose de temporaire, un choc, une urgence, puis un retour à la normale. Une faillite, là, on passe un cap.
Exactement. C'est bien résumé. Effectivement, il y a cette notion de gradation, en fait, dans les questions d'eau. Et le rapport, il est là pour, en fait, comme un appel à un réveil vis-à-vis à la fois des citoyens, mais aussi des pouvoirs publics, et pas simplement à une échelle locale, c'est à l'échelle globale, parce que les questions d'eau, on a peut-être tendance à les voir à une échelle de gestion de bassin versant, à l'échelle de la gestion d'un aquifère, mais il y a beaucoup de questions qui doivent se régler, qui doivent être discutées à un agenda international, quand il est question de justice, de partage d'eau, de zones déficitaires, de zones plus excédentaires et de production agricole, production industrielle, par exemple.
Voilà, donc ce rapport forge ce nouveau concept, faillite hydrique. Que recouvre exactement ce terme? On poursuit avec notre archive du jour, nous sommes en 1955.
Les Finlandais, les Écossais, les Canadiens et chez nous, les habitants de la Normandie, resteront peut-être sceptiques en apprenant que le manque d'eau douce est un des plus grands problèmes auxquels la civilisation se prépare à faire face. En d'autres régions comme la Maurétanie, la Ouef et nos départements du Lot et de l'Hérault, peu favorisés par les précipitations atmosphériques ou par la nature du sol, on admettra au contraire que ce problème existe. Mais n'est-il pas à la fois éternel et sans doute insoluble? La planète reçoit largement de quoi combler tous les besoins de ses habitants actuels, mais l'eau a toujours été mal répartie. Les populations se sont fixées là où elle existe, elles se sont écartées de celles où l'eau fait défaut. Cette vérité est le fondement même de toute la géographie humaine. Mais dans le dernier siècle, les choses se sont singulièrement compliquées. Prenons à titre d'exemple Paris et la banlieue parisienne. Sans remonter au temps où un ménage se suffisait des deux seaux montés chaque jour par le porteur d'eau, nous pouvons citer le chiffre de l'eau distribuée en 1890 dans l'enceinte de Paris. 50 millions de mètres cubes d'eau potable. Actuellement, cette distribution, avec plus de 300 millions de mètres cubes, a sextuplé. Il faut y ajouter 150 millions de mètres cubes d'eau non potable. Par jour, Parisiens et banlieusards utilisent donc chacun une moyenne de 450 litres d'eau. Et leurs besoins apparaissent relativement modestes, comparés à ceux des New-Yorkais qui en consomment 600. Dans l'une et l'autre ville en tout cas, la pénurie n'est souvent évitée que de justesse. On cite même un automne où, après une sécheresse prolongée, la municipalité de New York a dû imposer de très sévères restrictions. Un grand hôtel de la ville songeait déjà à forer un puits sous son immeuble pour pouvoir conserver à sa clientèle le confort habituel.
Voilà un extrait de la pénurie d'eau dans l'émission Heure de culture française sur la RDF en 1955. Agnès Ducharme, on entendait dans cette archive, voilà, la question de l'eau est un problème éternel et insoluble. Vous en pensez quoi?
C'est vrai, et j'ai trouvé vraiment hyper intéressant d'écouter ces archives qui ont donc 70 ans. Et la personne qui parlait faisait un lien disons que moi j'aimerais faire un lien avec le nombre d'habitants sur la planète. Donc, il parlait notamment des problèmes d'eau dans le Lot, l'Hérault, en Mauritanie. Donc, sous des climats semi-arides, ça reste toujours le cas. Mais évidemment, il y a une conjonction avec la densité de population, ce qui est aussi abordé dans l'extrait qu'on a entendu. Mais entre 1955, de quand date ce documentaire audio, et aujourd'hui, en 70 ans, la population est passée de 3 milliards globalement à plus de 8 milliards. C'est énorme en fait. Et la consommation en eau associée à l'échelle de la planète, elle a augmenté encore davantage que la population. Et ça, c'est vraiment un des moteurs de cette faillite hydrique, le fait que la population humaine se développe, consomme de l'eau pour l'alimentation en eau potable, mais pour toutes ses activités, a tendance à se concentrer dans des bassins développés, et que localement, du coup, il y a une surpression, sur la ressource en eau, c'est-à-dire qu'on demande de plus en plus d'eau dans des zones géographiques réduites.
Et on reviendra sur ces questions démographie, surtout sur la question des usages et plus exactement des mauvais usages, parce que je pense que de l'eau, il y en a pour tout le monde. Mais je voudrais également entendre votre écoute, Christelle Marlin, de cette archive de 1955.
Je suis du même avis, c'est-à-dire que c'est très intéressant d'entendre cette archive avec des problèmes qu'on pourrait tout à fait transposer à aujourd'hui. Rien n'a beaucoup bougé. Peut-être que la consommation d'eau d'un Parisien est peut-être pas tout à fait la même, puisqu'on parle en France. Alors globalement, sur la France, on est plus proche de 150 litres d'eau par habitant. Donc ça réduit. On a eu je dirais que des mesures, on a été appelé en tant que citoyen à des mesures de sobriété quant à la consommation d'eau, mais à côté de ça, il y a aussi des différents secteurs qui ont augmenté leur consommation. C'est intéressant de relier finalement ces 70 ans qui sont passés, ramène un sujet qui a pas beaucoup ou peu bougé, avec même des solutions. On entend dire que sous l'hôtel à New York, on envisageait de faire un forage. Donc chacun y va de sa solution. Et c'est peut-être ça un petit peu le problème. C'est-à-dire que quand on est en situation de stress hydrique, on est peut-être tenté à trouver une solution pour soi-même, alors que l'eau, c'est un bien commun. L'eau douce, hein, on parle bien d'eau douce, pas d'eau salée. C'est un bien commun, donc il y a nécessité de le réfléchir collectivement.
Et ça aussi, vous êtes en train d'annoncer un peu le plan de cette émission, puisqu'il sera évidemment question de cette gouvernance de l'eau à l'échelle mondiale. Par rapport justement à ces signes de cette faillite hydrique, ils sont visibles. Christelle Marlin, quels sont ces signes? Ça commence avec les lacs par exemple, ça fait partie des exemples les plus frappants qu'on ait sous les yeux.
Alors on a énormément de signes. Hein. Il y en a qui sont visibles. Visible, c'est de voir des barrages, des plans d'eau qui se vident, hein, ou qui sont partiellement remplis, de voir des cours d'eau parfois à sec, des têtes de bassins qui ne sont plus en eau. Hein. Certaines rivières ont leurs affluents qui sont à plus basse altitude. On voit les glaciers qui fondent. Ça, c'est des effets tout à fait visible. Et puis il y a aussi de l'eau invisible, qui est l'eau souterraine, que l'on voit si on va la chercher, si on fait des puits, si on a des points d'accès. Eh bien, on va voir que voilà, les nappes aussi, leur dynamique, elles peuvent être en réduction. Alors malheureusement, elles sont majoritairement en réduction à l'échelle du globe, puisqu'on estime qu'à peu près 70% des grandes masses d'eau souterraines sont en phase de réduction à l'heure actuelle. Après, c'est la disparition aussi de zones humides. Alors c'est plus subtil peut-être à voir, mais la France a énormément de zones humides très utiles, hein, à la fois pour contenir les crues, mais aussi comme abritant des écosystèmes précieux. Les milieux côtiers qui peuvent se dégrader parce qu'on va extraire par exemple des granulats à tel ou tel endroit, et on déstabilise en fait à la fois des espaces continentaux, mais aussi des espaces côtiers. Et là, c'est pour simplement parler des question de quantité. Parce que dans le rapport, c'est vrai que c'est assez peu souligné, c'est mentionné mais pas tellement détaillé, mais à ces questions de quantité s'ajoutent les questions de qualité d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que géochimiste, me tient particulièrement à cœur, parce que la dégradation de l'eau, c'est aussi la dégradation d'une qualité. Parce que l'eau va à la fois transporter des éléments dissous, qu'ils soient géogéniques, donc qui viennent de la dissolution des roches qu'elle traverse, mais aussi des particules, des molécules importées par des activités humaines, des pesticides, des nitrates, et puis toute une série de produits, de molécules organiques qu'on a tendance maintenant à bien détecter un peu partout, parce qu'on a les instruments qui sont capables de le faire, sans compter aussi des questions de salinisation, parce que c'est un vrai, vrai problème. Ça, bien appuyé dans le rapport, mais la salinisation, c'est quelque chose qui dégrade la qualité de l'eau, parce que quand on regarde les volumes d'eau présents sur Terre, les volumes d'eau douce, liquide, c'est 1% de toute l'eau. C'est très, très peu. C'est-à-dire l'eau des nappes, des rivières, ramener ça à l'échelle mondiale, on a simplement 1% d'eau, voire même un petit peu moins. Si je retire l'eau salée, il n'en reste plus beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a, par ce rapport, un appel à prendre conscience de cette eau qui est finalement rare à l'échelle du globe.
On voit que ce stade de faillite n'est pas encore atteint dans tous les bassins, heureusement, mais cette faillite hydrique n'est ni uniforme ni universelle, mais on peut dire qu'elle circule, Agnès Ducharne, qu'on voit que l'accès à l'eau potable n'est pas tout à fait égal partout à l'échelle de la planète.
Non, c'est une caractéristique essentielle du cycle de l'eau, d'être extrêmement hétérogène spatialement. Et donc... Un exemple caractéristique, c'est que à la même latitude, donc c'est un déterminant important du climat et de la latitude. Donc au niveau de l'équateur, vous trouvez à la fois un des plus grands déserts, le Sahara, et la plus importante forêt équatoriale humide du bassin versant amazonien. Et des exemples de ce type, des contrastes entre des zones bien alimentées par les précipitations et d'autres qui le sont beaucoup moins, il y en a partout. Et donc c'est un déterminant majeur de l'accès en eau douce liquide, dont Christelle a rappelé l'importance. Et par ailleurs, donc, ce qui crée la faillite hydrique, c'est la surexploitation par rapport à ce qui est lié, ce qui est apporté naturellement en tenant compte des hétérogénéités naturelles de ces accès à l'eau. Donc on rentre en tension, en crise et voire en faillite hydrique quand les sociétés humaines locales pompent, polluent ou imperméabilisent trop les bassins versants.
Les signes de faillite hydrique sont partout. Mmh.
Et c'est au point que donc ce rapport estime que 4 milliards de personnes à l'heure actuelle sur le globe, donc la moitié de la population mondiale, se retrouvent avec des problèmes d'accès à l'eau au moins un mois par an, ce qui est énorme en fait. Et quand on est face à ça, on est totalement démuni.
Alors, quelles sont les causes de cette faillite de l'eau? Est-ce le changement climatique, l'utilisation des ressources, l'urbanisation? Tout ça à la fois, on fait le point.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Agnès Ducharne et Christelle Marlin, nous parlons de faillite hydrique. On vient de voir qu'environ 35% des zones humides ont disparu en un demi-siècle. La moitié des grands lacs du monde ont vu leur superficie diminuer depuis le début des années 90. Quant aux eaux souterraines, ces masses d'eau sont très sollicitées. Les nappes fournissent quelque 50% de l'eau domestique mondiale et plus de 40% des apports pour l'irrigation. Alors qui sont les dévoreurs d'eau? On continue avec notre deuxième archive.
D'où vient cet accroissement considérable des besoins d'eau manifestés par les agglomérations urbaines? Sans doute, les baignoires, la lessive, les chasses d'eau et l'arrosage municipal jouent-ils un rôle assez important? L'eau de boisson, à raison d'un litre et demi à deux litres par jour et par personne, ne compte pour ainsi dire pas. Mais les véritables dévoreurs d'eau ne sont pas en vérité les habitants eux-mêmes, mais bien les industries de toutes sortes implantées dans les villes ou leurs environs. Citons quelques chiffres. Pour produire une seule tonne de pâte à papier, on utilise jusqu'à 340 tonnes d'eau. Pour une tonne de rayon, 800 tonnes. Pour une tonne d'acier, 270 tonnes. Pour une tonne de caoutchouc synthétique, 2500 tonnes. Au total, selon des évaluations faites dans l'Est des États-Unis, l'industrie consomme 5 fois plus d'eau que l'ensemble des personnes privées. Elle crée une pollution permanente et presque toutes les rivières ont été plus ou moins transformées en égouts. 5300 réseaux d'assainissement seraient nécessaires pour leur rendre une pureté relative, travail qui, selon les prévisions les plus optimistes, exigera une vingtaine d'années d'efforts.
Voilà, autre extrait de l'heure de culture française sur la RDF en 1955. Christophe Marlin, les dévoreurs d'eau, comme le disait cette archive, finalement, là, on entend surtout parler de causes anthropiques. Quelles sont les activités et les groupes qui consomment le plus d'eau aujourd'hui en 2026?
Alors, ça dépend où est-ce qu'on se situe sur la planète. C'est vrai qu'à l'échelle globale, j'ai pas eu l'impression d'avoir entendu l'agriculture. Pourtant, c'est le principal dévoreur d'eau, de l'eau consommée dans la fabrication de denrées alimentaires. Bien sûr, il y a les industries, mais vraiment ce qui domine à l'échelle mondiale, c'est à 70% l'eau est utilisée pour l'agriculture. Ce qui n'est pas tout à fait l'image de l'utilisation en France. On est un petit peu moins, alors si on retire l'eau qui est utilisée mais pas consommée totalement par les centrales thermiques, puisque c'est de l'eau qui va être restituée au milieu, l'agriculture en France va consommer environ 50-60% de l'eau. Donc c'est un petit peu moins que la moyenne mondiale. Et derrière cette consommation d'eau pour l'agriculture, évidemment, on va trouver l'industrie. Et puis en dernier, alors ça, par rapport à l'archive, ça n'a pas trop changé, c'est l'eau pour, on va dire l'eau domestique, l'eau pour l'hygiène, l'eau pour l'eau de boisson, l'eau de préparation des aliments, l'eau de nettoyage. Donc cette hiérarchie n'a pas changé par rapport à l'archive.
Et alors, en effet, le principal moteur, l'agriculture, Agnès Ducharne, le problème, c'est que cette eau pompée pour l'agriculture, elle ne retourne pas dans les cours d'eau, c'est ça? Elle est évaporée par les plantes.
Tout à fait, c'est ça. Pour irriguer, en tout cas, c'est différent si on veut abreuver des animaux d'élevage. Mais pour ce qui est irrigation, on pompe de l'eau soit dans des nappes phréatiques, soit dans des rivières, ça dépend de ce qui est le plus facile en général, Et puis cette eau va être mise à portée sur le sol, s'infiltrer dans le sol et être utilisée par la végétation pour sa transpiration et pour sa production agricole. Et les plantes ont besoin à la fois d'eau, de lumière et de dioxyde de carbone pour pousser, et elles ont vraiment besoin des trois. Et donc, sans eau, elles ne poussent pas. Et la transpiration donc fait disparaître de l'eau liquide, cette eau ressource, cette eau douce ressource. Elle diminue à chaque fois qu'on fait évaporer par des plantes.
Et si on pompe pour refroidir une centrale nucléaire, par exemple, Agnès Ducharme ?
Alors, ça dépend. Il y a une part de vaporisation dans les activités de refroidissement, mais qui généralement, par les experts, est considérée comme minoritaire. C'est-à-dire que 10%, en gros, des pompages qui vont avoir lieu pour toutes les activités de refroidissement, donc pour la production électrique, pour l'acier, et j'en oublie certainement d'autres, va être évaporé et donc va disparaître de la ressource en eau liquide. Et les autres 90% des pompages qui auront été faits vont retourner dans la rivière, et de manière réchauffée. Ce qui est une bonne chose en termes de quantité, mais généralement pas une très bonne chose du point de vue de la qualité de l'eau, notamment pour les écosystèmes. En été en tout cas, ça peut amener ces rejets d'eau chaude à altérer profondément le milieu des écosystèmes aquatiques et à être très dangereux pour les poissons, les crustacés et les plantes.
En tout cas, par rapport à l'irrigation intensive, Christophe Merlin, cette diminution en nombre, elle se ressent beaucoup, surtout dans les zones agricoles les plus productives du monde, comme la Californie, les grandes plaines centrales des États-Unis, les plaines du nord de la Chine et le bassin du Gange en Inde.
Exactement. On peut rajouter d'autres régions, hein, puisqu'il y a le Brésil aussi, et la France aussi, parce qu'elle y contribue. On est comme le Canada, j'ai oublié le Canada, les grandes cultures, en fait, nécessitent souvent, en particulier pour le maïs, hein, le maïs, la luzerne, hein, nécessitent un apport d'eau supplémentaire, hein. Le maïs est une plante qui est une plante tropicale. Alors, quand on la fait pousser en France, on voit bien que l'été, il va y avoir peut-être un déficit d'eau, donc il faut lui apporter cette quantité d'eau, et donc cette eau va servir à effectivement à cette comment dire cette production qui est souvent exportée là où on en a besoin pour alimenter les animaux.
Alors, par rapport au GIEC, selon un des rapports du GIEC, les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes terrestres et les sociétés humaines se manifestent principalement à travers les modifications du cycle de l'eau. Christophe Merlin, c'est-à-dire que quand on dit faillite de l'eau, on a l'impression qu'on a perdu de l'eau, mais en fait, elle est distribuée différemment.
Exactement. Voilà, c'est vrai qu'il faut bien rappeler ce chiffre-là. C'est-à-dire que à l'échelle de 3-4 milliards d'années, hein, l'histoire de la Terre, c'est très long, il y a un cycle de l'eau qui existait. Les volumes d'eau ont très peu changé au cours de ces temps géologiques. Mais ce qui change, et ce qui change aussi brutalement sur les dernières décennies, c'est les volumes des réservoirs. Puisqu'on sait, par exemple, qu'avec le réchauffement climatique, chaque degré gagné, c'est 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc, s'il y a plus d'eau dans l'atmosphère, il y en a peut-être moins ailleurs, c'est sûr. Donc on a cette faillite de l'eau, c'est aussi lié à un débalancement, en fait, dans un dérèglement, en fait, du cycle de l'eau qui était peut-être plus naturel si on se repositionne 200 ans en arrière. Hein, on va essayer de remonter peut-être au 18e siècle, avant que l'homme impacte beaucoup son environnement. Et de fait, on a maintenant peut-être un petit peu moins d'eau dans les aquifères, mais peut-être un peu plus dans les océans. Peut-être un peu moins d'eau dans les rivières et peut-être un petit peu plus ailleurs. Voilà.
Agnès Ducharme.
Alors, vous avez dit que la faillite hydrique, c'est pas qu'on a perdu de l'eau, c'est qu'on la distribue différemment. Ça, c'est plutôt ce que fait le changement climatique. Mais vraiment, la faillite hydrique, notamment via l'évaporation d'eau qu'on va pomper dans les cours d'eau, dans les nappes, pour l'irrigation, pour le refroidissement et certains autres usages, temporairement en tout cas, ça fait diminuer les quantités d'eau douce liquide qui circulent et qui sont mobilisables par d'autres usagers de cette eau douce liquide à l'aval des bassins versants, que ce soit des sociétés humaines ou des écosystèmes. Et par contre, le changement climatique par rapport à ces usages directs trop importants de la ressource en eau douce en rajoute une couche en modifiant le régime des précipitations, le régime de l'évaporation. Et de manière générale, on considère que le changement climatique intensifie le cycle de l'eau, augmente les précipitations fortes et diminue les précipitations faibles, augmente la durée des saisons sèches. Et ça, c'est un élément qui renforce la faillite hydrique et qui continuera évidemment de la renforcer à l'avenir, parce que le changement climatique, malheureusement, on en a pris pour un certain nombre de décennies dans la vue.
Le changement climatique, en effet, entraîne la rectification des termes. Alors, à l'heure actuelle, quelle est la part de responsabilité du changement climatique dans cette faillite hydrique que l'on connaît chez Christelle Marlin?
Alors, en fait, ce qu'il faut quand même bien rappeler et bien dire, c'est que à la source du changement climatique comme de la surexploitation des nappes, c'est quand même l'homme. C'est quand même nos pratiques. Donc,
rappeler en effet l'origine anthropique.
Oui, non, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est on a agi sur le climat. Alors évidemment, le climat il a sa variabilité naturelle, hein, mais il y a des facteurs d'amplification, de dérèglement qu'a rappelé Agnès, avec des extrêmes hein, plus appuyés. Mais tout ça en fait, c'est nos actions, notre mode, nos modes de vie hein, sur la Terre qui impactent le cycle de l'eau.
Nos modes de vie, en effet, notre façon d'habiter la Terre, puisque l'urbanisation, on l'a déjà évoqué, la hausse démographique, tout ça, ça a un impact. Il va falloir, comme vous l'avez dit, fournir de l'eau à 8 milliards de personnes, mais c'est surtout aussi le changement d'usage des sols qui affecte aussi la ressource en eau, Agnès Ducharme.
Oui, là, on a parlé déjà de pompage en eau douce, on a parlé de changement climatique, et il y a un troisième acteur très important, c'est l'artificialisation des terres, les changements d'occupation des terres. Donc ça peut prendre le fait de développer la culture du maïs et des cultures irriguées, mais c'est pas la seule manière dont l'occupation des sols va modifier la disponibilité en eau douce dans un bassin versant. Et en particulier, tout ce qui va relever de l'imperméabilisation va avoir des impacts à la fois sur une intensification des crues, et c'est ce que malheureusement nos concitoyens de l'ouest de la France viennent de vivre au cours des dernières semaines, et ils sont encore à attendre la fin de la décrue, mais en même temps, donc, excusez-moi.
Je vous en prie, Alice.
Cette imperméabilisation favorise les inondations en empêchant l'infiltration de l'eau dans les sols quand les pluies sont abondantes, donc dans notre climat en hiver. Avec une moindre infiltration de l'eau dans les sols, les stocks naturels que sont les sols et en dessous les nappes phréatiques qui sont rechargées aussi en hiver vont contenir moins d'eau et donc vont être capables de délivrer au cours des mois qui suivent la période hivernale, moins d'eau au cours d'eau, au sol, aux plantes, en été donc. Donc quand on imperméabilise un sol, à la fois on favorise les inondations et on favorise les sécheresses. Et c'est la même signature par ailleurs que le changement climatique qui en même temps favorise les inondations et favorise les sécheresses.
Et voilà, et les sécheresses, et puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue, Christelle Marlin, puisque les sécheresses elles-mêmes empêchent justement la recharge des nappes et des eaux profondes.
Voilà. Justement, je voudrais revenir sur un point là sur les sols, parce que au-delà effectivement de l'artificialisation des sols, il y a aussi le fait qu'un sol dégradé, faut voir que on peut pas en claquant les doigts le reconstituer. C'est la pédogenèse, hein, la fabrication des sols procède de processus qui sont longs dans l'histoire, en fait, à l'échelle de la vie humaine, et qu'un sol dégradé sera moins productif, un sol qui n'a pas suffisamment de matière organique, qui n'a plus la structure nécessaire, va du coup moins produire, et on sera tenté de rajouter des produits ou davantage irriguer. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez important à rappeler, hein, c'est la dégradation, enfin, les temps longs associés au sol, tout comme le temps long associé au remplissage des nappes. Je ne vais pas dire à leur vidange, à leur exploitation, parce que l'eau, on peut très vite la sortir du milieu par pompage. Si on fait des pompages excessifs et qu'on ramène à la surface de l'eau qui a 10 000 ans ou 20 000 ans, alors je ne dis pas qu'il faut autant pour que ça se remplisse, mais le goulot pour faire rentrer de l'eau dans une microporosité entre des grains de matière pour arriver jusqu'à la nappe, c'est un processus qui est lent, même si là, par exemple, dans le sud-ouest, on a en ce moment des grandes quantités, des grandes nappes d'eau, malheureusement, en surface avec ces inondations. Cette eau contribue à la recharge des nappes, ce qui est plutôt bien, je dirais, pour d'un point de vue hydrologique, hein, hydrogéologique, cette recharge des nappes, mais ça reste un processus qui va être lent et qu'on vide rapidement, mais on remplit doucement. L'ordre de grandeur, c'est, on va dire, une vingtaine, trentaine de centimètres au maximum par an. Là où il y a simplement des grains de sable, là où il y a des grandes fractures, ça peut aller plus vite. Mais en ce qui concerne le sud-ouest de la France, c'est majoritairement des aquifères de nature sableuse, sableux-argileuse.
Voilà, et pour compléter hein, sur les changements d'usage des sols qui affectent aussi la ressource en eau, il ne faut pas oublier la déforestation à grande échelle qui diminue l'évapotranspiration et les précipitations. Alors, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées, tant sur le plan local que de manière globale, à l'échelle de la planète tout entière? Restez avec nous.
C'est qu'il n'y a aucun nuage dans ce ciel de bleu, un pur paysage de rien que du soleil et de sécheresse. Aride, j'ai la gorge aride et vide. J'ai le bide à vide d'eau fraîche. Le débit diminue dans toutes les rivières à nu, sud de leur pore de vase sèche. Les lacs et les nappes d'eau à sec, anticyclones de haute zone, un temps d'obsèques, l'été, dromadaire exténué, cimetière de l'été, sécheresse. Sécheresse, sèche, sécheresse, sécheresse. Oh no!
Sécheresse de Dick Hanegaard en direct sur France Culture. On parle de sécurité hydrique et de faillite mondiale de l'eau en compagnie de nos deux invités du jour, Agnès Ducharne, climatologue et hydrologue, directrice de recherche CNRS dans le laboratoire Métis de Sorbonne Université IPSL, et dans le même laboratoire, Christelle Marlin, chercheuse en hydrogéologie et en géochimie à l'Université Paris-Saclay. On vient de voir qu'entre la démographie, urbanisation rapide et changement climatique, ces trois moteurs exercent une pression sur l'eau. L'agriculture représente 72% des prélèvements mondiaux, tandis que les ressources renouvelables par habitant chutent fortement dans les régions déjà vulnérables. On a évoqué la pollution des sols, la qualité de l'eau souterraine qui risque d'être dégradée par la pollution croissante. Est-ce que, avec tous ces facteurs, Agnès Ducharne, il est possible de faire des projections futures?
Tout à fait. Déjà, on est capable, grâce au modèle climatique, au modèle hydrologique, dans la lignée de ce qui se fait pour le GIEC, d'estimer l'évolution de la part des ressources en eau qui vient directement du climat. On est aussi capable de faire le même genre d'exercice en considérant différentes hypothèses d'évolution future de l'occupation des sols, donc pourcentage de forêts, culture, zones urbanisées, etc. Et récemment, on est capable aussi de rajouter l'effet de l'irrigation des cultures irriguées, ce qui a tendance à faire diminuer davantage les ressources en eau dans certaines des zones où l'irrigation est importante. Et ça, c'est avec un jeune collègue, on a mené le premier travail de ce type qui a été publié il y a un an. Donc c'était une première. Et on a mis en évidence différents types d'interactions entre changement climatique et irrigation par rapport à la disponibilité des ressources en eau. Parmi les différents types de ces interactions-là, certaines amènent à s'enfoncer de plus en plus dans la faillite hydrique, pour reprendre les termes du rapport du mois dernier. La science progresse pour prendre en compte de plus en plus les différentes influences les différentes influences humaines sur les ressources en eau, et on attend de nouvelles études prenant en compte l'effet de la densité de population, des besoins pour l'eau potable domestique, etc., etc.
Puis on a aussi tendance à s'enfoncer de plus en plus en profondeur, hein, puisque on va chercher des nappes plus profondes, plus propres, puisqu'on l'a évoqué, Christelle Marlin, hein, des microplastiques, PFAS, produits phytosanitaires. On a parlé de la pollution et de nos modes de vie, et donc qui impactent la qualité de l'eau.
Alors ça, ce que vous mentionnez, effectivement, c'est des molécules qu'on peut retrouver dans les eaux de surface ou dans les nappes de faible profondeur. Mais quand on va à plus grande profondeur, on peut trouver d'autres nappes, effectivement, avec des qualités qui peuvent être très bonnes, mais aussi moins bonnes, parce que là, la géologie peut aussi apporter des éléments chimiques indésirables à l'eau. Donc, il y a besoin d'avoir des études, hein, pour savoir à quel type de nappe on a affaire. Alors, les nappes dont profondes auxquelles je pense sont les nappes dites captives. Donc, c'est des nappes qui sont avec une couverture sédimentaire imperméable, qui fait qu'elles sont protégées naturellement, elles doivent être protégées de tous les intrants qui peuvent arriver par la surface. Si on n'y fait pas attention, par contre, on peut tout à fait faire transiter des éléments chimiques qui sont présents dans les nappes libres, les nappes phréatiques. On peut les faire transiter même dans les nappes captives sous l'effet de fort pompage. On va déséquilibrer les pressions et faire ce qu'on appelle de la drainance, c'est-à-dire faire transiter de l'eau de la surface vers la profondeur. Mais ces nappes captives, on en a beaucoup. En France, on en a quand même un certain nombre, parce que géologiquement, nous avons des grands bassins sédimentaires. On a le bassin de Paris, le bassin Aquitaine, le bassin du sud-est de la France, et avec quelques milliers de mètres de sédiments, vous pouvez tout à fait imaginer le millefeuille d'aquifère que ça peut représenter, et avec des ressources en eau. Alors, quand on va à trop grande profondeur, l'eau est chaude. L'eau est trop minéralisée et du coup est impropre à la consommation. Il y a un juste milieu qui est quelque chose que l'on regarde en hydrogéologie, c'est les nappes captives mais renouvelables avec de l'eau qui sera, on espère, de bonne qualité.
Justement, on va aller voir ce millefeuille de plus près, comment surveiller nos ressources en eau. On continue avec le reportage du jour. Dans ce contexte de faillite hydrique, il devient nécessaire de pouvoir surveiller le niveau des aquifères, ce qui est difficile sans forage et donc altération du milieu. Mais il existe des nouvelles techniques d'imagerie géophysique non invasives que nous sommes allés découvrir au laboratoire Milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols de Sorbonne Université. Et c'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, géophone, tomographie sismique ou mesure électrique, en combinant ces méthodes, on jette une nouvelle lumière pour révéler la complexité de ces masses d'eau, loin de l'image d'un lac souterrain, mais qui se répandent dans les interstices et anfractuosités des roches souterraines. En dressant des imageries 4D, c'est-à-dire avec la dimension temporelle, on parvient à mesurer et surveiller l'évolution de ces aquifères des périodes de sécheresse aux inondations. Une eau invisible que Damien Jougnot, directeur de recherche au CNRS explore entre mesure de terrain et modélisation en laboratoire.
On a par exemple ici un appareil qui permet de mesurer la résistivité électrique du sol selon un écartement fixe. C'est une grande barre horizontale sur laquelle il y a quatre électrodes qui ressemblent en gros à des gros clous et qu'on va planter dans le sol. Et donc en gros on va enfoncer cet appareil dans le sol.
On plante
l'appareil dans le sol et on va envoyer le courant électrique sur les deux électrodes. On va injecter du courant électrique par les deux électrodes aux extrémités. On va mesurer une différence de potentiel entre les deux électrodes qui sont au centre. Et donc après, grâce à la loi d'Ohm, certains se rappelleront de U égale RI. I c'est le courant qu'on injecte, U c'est la tension qu'on mesure et R c'est la résistance du milieu, ce qu'on cherche. Et donc en gros, on va mesurer la résistivité électrique du milieu sur une profondeur qui correspond à peu près à l'écartement entre les électrodes. Donc pour nous, là, ça fait à peu près 40 cm. Donc on va dire sur les 40 premiers centimètres, on va avoir la mesure de la résistivité. Sinon, il y a des appareils qui traînent dans leur boîte. Donc j'ai un appareil de...
Cette grosse boîte de jeu.
Alors c'est même une valise ou à roulette. On peut l'utiliser et la déplacer. Donc, c'est un PSIP, un Portable Spectral Induced Polarization.
C'est un petit laboratoire.
C'est state of the art. Donc, c'est vraiment un truc qui est tout neuf. Mais alors, ça ressemble à un vieil appareil des années 80. Donc, ouais, c'est juste un appareil. Alors, on peut le sortir. C'est assez léger.
Pas l'abîmer,
en plus.
Ouais.
Ou non, ça va. Je le trimballe dans le RER. Hein, donc,
Ah oui. Il est robuste alors.
Oui, il est robuste. Mais donc là, typiquement, ce qu'on voit, c'est un espèce d'appareil qui a l'air sorti des années 80, mais qui permet d'injecter du courant et de mesurer des différences de potentiel. Donc, en gros, de faire une mesure de conductivité électrique complexe liée à la quantité d'eau, la présence d'argile ou non, mais aussi sur des processus qui vont être liés à de la microstructure, à des réactivités chimiques, voire à la présence de biologie et de bactéries dans les sols. Alors c'est vrai que la question du suivi du remplissage des nappes, d'une certaine manière, ou du remplissage des réservoirs d'eau souterrain, des aquifères, c'est une question qui est complexe parce que c'est de l'eau qui va être invisible. Et donc en géophysique, on va pouvoir imager donc de manière indirecte, mais de manière non intrusive, c'est-à-dire à partir de la surface, on va pouvoir imager la quantité de l'eau dans le sol, les différentes structures des couches géologiques, etc. Et donc on a plusieurs types de méthodes qui existent. On a des méthodes qui vont être basées sur la propagation d'ondes. Par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle une source sismique. Donc on va taper au marteau sur le sol. On va disposer des récepteurs un peu partout autour de là où on tape, et on va écouter à quelle vitesse les ondes arrivent. Et en fait, la vitesse des ondes, elle est très influencée par le contenu en eau, par exemple, dans le sol. De la même manière, on peut poursuivre ce contenu en eau dans le sol, et puis la profondeur à laquelle on a de l'eau, etc. On peut utiliser des méthodes électriques où là, l'idée, c'est d'injecter du courant électrique. Et donc, cette discipline de l'hydrogéophysique, c'est vraiment l'utilisation de beaucoup de méthodes de géophysique différentes et complémentaires les unes des autres pour étudier la quantité d'eau qu'on a dans le sol de manière non intrusive, donc sans creuser et sans faire de puits.
Ce qui est intéressant dans ces approches-là, c'est qu'elles sont dynamiques, elles rendent compte de processus au cours du temps, donc c'est pour ça qu'on appelle vos méthodes de l'imagerie 4D.
Exactement, donc au lieu de faire une imagerie 3D statique, on peut répéter cette imagerie dans le temps et donc grâce à ça, voir les processus qui nous intéressent. On a beaucoup fait ça pour suivre par exemple l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol ou les variations du niveau de nappe, et donc cette répétition de la mesure géophysique, donc non intrusive, elle va avoir comme intérêt de nous permettre vraiment de suivre le remplissage des nappes, la montée, la descente, et à terme, en intégrant tout ça dans des approches numériques, on va dire un peu plus évoluées, de ce qu'on appelle une approche d'inversion jointe, on va pouvoir proposer des scénarios, des prédictions de, vu la vitesse à laquelle le niveau de la nappe descend ou monte en réponse à une infiltration d'eau de pluie, par exemple, on va pouvoir commencer à prédire à quelle vitesse les nappes vont se drainer, vont se resaturer, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est un bloc diagramme du sous-sol où on a une vision donc pseudo 3D du sous-sol, et on voit les différents types de méthodes qu'on peut utiliser pour faire de l'hydrogéophysique, donc à 4D, à 4 dimensions. On va faire des mesures qu'on va distribuer dans l'espace. On voit aussi sur le côté droit ce qu'on appelle des profils, donc plutôt une imagerie d'un transect d'un profil, donc en fonction de la profondeur. On peut voir aussi à certains endroits des mesures qui sont faites entre des forages. Donc, quand il n'y a pas de forage, il faut qu'on mesure de manière la plus non-intrusive possible. Mais si on a déjà des forages, autant en profiter, autant s'en servir. Donc des forages ou des puits. Et on peut faire des mesures entre les forages, entre les puits.
C'est très impressionnant de pouvoir observer à quel point ces méthodes peuvent nous donner accès à cette réalité invisible. Et comment ces connaissances-là peuvent aussi nous guider à d'autres échelles, peut-être d'ordre social et politique, quand on sait aujourd'hui on est dans un état de faillite hydrique globalisé, en quoi ces connaissances peuvent éclairer des décisions
Alors, pour pouvoir prendre des décisions sur est-ce qu'on a le droit de prélever de l'eau à tel endroit ou est-ce qu'on peut rejeter de l'eau à tel endroit et comment suivre tout ça, il faut savoir où est-ce qu'on prélève l'eau, où est-ce qu'on la réinjecte éventuellement. Donc, l'idée est vraiment de mieux connaître le milieu, de mieux connaître la géométrie des aquifères, de mieux connaître leur réactivité et suivre leur dynamique pour pouvoir ensuite extrapoler ou faire des propositions, des prédictions de comportement des hydrosystèmes à différents types de forçage.
Merci Céline Lozen. Nos reportages pour sortir du studio et pour découvrir la science et le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Christelle Marlin, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Ces méthodes sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent d'accéder à l'hétérogénéité des milieux. Souvent, effectivement, on a des points d'observation qui sont très, très éloignés. On va avoir un ouvrage à un tel endroit, un autre un peu plus loin, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe entre deux points. Donc là, c'est ces méthodes non destructives, géophysique, donc c'est la physique appliquée à l'étude du sous-sol, va nous permettre d'accéder à cette hétérogénéité. Et par exemple, on a, un verrou scientifique autour d'un processus qui s'appelle la recharge des nappes. On a tendance à l'imaginer comme quelque chose d'assez homogène. Là où la formation aquifère affleure, l'eau va rentrer. Mais en fait, c'est pas comme ça, parce que souvent, il y a des hétérogénéités. Donc, deuxième point fort, je trouve, dans ces méthodes, c'est aussi de pouvoir nous donner accès à des géométries de formations géologiques, les aquifères, les formations imperméables, semi-perméables, en plus de pouvoir, alors ça, c'est un peu l'ambition, je trouve, c'est l'ambition de faire du 4D, c'est-à-dire rajouter la dimension temporelle, c'est quand même très lourd comme manip. À ce moment-là, effectivement, on pourra effectivement peut-être suivre davantage, à plus grande échelle, les dynamiques de l'eau. Mais pour l'instant, on est encore, je trouve, dans ce champ-là, à l'échelle de la recherche.
Eh bien, allons jeter un œil en tout cas à l'hétérogénéité des solutions. Quelles sont les fausses bonnes idées? Que dit la science? Qu'est-ce qui risque d'aggraver la spirale? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture avec Agnès Ducharne et Christelle Marlin, nous parlons de la faillite hydrique qui menace l'humanité. On vient de parler on vient de faire un diagnostic, on vient de voir ses causes. Maintenant, quelles sont les solutions parmi elles? Il y a les fausses bonnes idées. On peut penser, Agnès Ducharne, aux méga-bassines. Pourquoi est-ce une fausse bonne solution qui n'est pas nouvelle au demeurant?
Non, les méga-bassines, c'est juste une des variations sur une même idée qui est celle des réserves artificielles d'eau. C'en est qui sont relativement petites par rapport à d'autres ouvrages qui sont très très courants dans tous les pays qui sont typiques des faillites hydriques, qui sont les gros lacs artificiels structurés à l'amont de barrages sur les cours d'eau pour retenir l'eau sur plusieurs mois et pouvoir profiter de l'eau qui est apportée en saison humide lors des saisons sèches. Donc cette idée, elle existe depuis très longtemps. Et en fait, ce que montrent tous les lieux dans le monde de faillite hydrique, c'est que ces solutions ne fonctionnent pas, en fait. Elles sont toujours amenées à leurs limites. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que quand on fait une retenue artificielle, quelle que soit sa taille, elle est généralement vendue pour comme une protection contre les sécheresses, contre des anomalies, des années particulièrement sèches. Mais les gens qui ont construit, mis beaucoup d'argent pour construire ces réserves artificielles, généralement se disent que ce serait bien dommage de gâcher ce capital hydrique, même quand on est dans une année normale. Et donc, ce qui se passe en général, c'est que les activités utilisatrices de l'eau sont développées. Par exemple, les surfaces irriguées augmentent. Ce qui fait que, quand arrive la sécheresse, à ce moment-là, elle touche une plus grande surface que prévu initialement et il n'y a plus d'eau dans la retenue parce que, plus assez en tout cas, parce que la surface à irriguer est plus grande. Et c'est vrai si on veut alimenter de l'industrie. Donc il y a là un effet rebond avec une augmentation de la vulnérabilité quand on développe ses réserves. Et par ailleurs, quand l'eau sert à des usages qui consomment l'eau, comme l'irrigation, comme le refroidissement, on fait disparaître de l'eau liquide. Et donc, pour les usages plus à l'aval, il y a juste moins d'eau. Donc, à la fois, ces infrastructures de stockage artificiel augmentent la demande en eau et diminuent la quantité disponible. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire en vrai pour résorber les problèmes de faillite hydrique.
Autre fausse solution, le retraitement des eaux, qui sont d'ailleurs les mêmes techniques que la désalinisation, le dessalement.
Oui, donc peut-être que ma collègue géochimiste veut en parler.
Je te laisse en parler.
Disons qu'on a insisté sur le fait que les ressources en eau, c'est de l'eau douce. Donc l'eau salée, c'est pas propre aux consommations des écosystèmes terrestres et les êtres humains font partie des habitants des écosystèmes terrestres. Donc, on peut fabriquer de l'eau douce, donc utilisable en désalinisant l'eau. C'est ce qui est fait parfois en littoral, mais ça a ses limites aussi. Et puis, on peut aussi fabriquer de l'eau de bonne qualité en traitant des eaux usées. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on détériore la qualité, on diminue la quantité d'eau qui est disponible, qui est de bonne qualité et qui est nécessaire.
Et finalement, ma dernière question, la seule solution, en fait, ce serait de, Christelle Marlin, de réduire les prélèvements, mais on n'est même pas sûr que ça marche. Ça peut marcher que si les réserves peuvent se renouveler.
Je pense que si, ce serait quand même la première des solutions.
Oui.
C'est d'arrêter de surpomper
à minima,
là où,
quoi.
Voilà, à minima, là où le climat n'y est pas favorable. C'est-à-dire qu'on a besoin de modèles de gestion durable partout sur la planète, de tous les systèmes hydrologiques et hydrogéologiques, ce qui amène en fait d'avoir des systèmes d'observation, des mesures et d'avoir des modèles robustes couplés à des modèles climatiques, Agnès l'a mentionné tout à l'heure, et des modèles aussi de dynamique d'autres cycles biogéochimiques dans l'atmosphère.
Agnès Duchesne, pour conclure
qui sont à notre disposition est extrêmement facile, c'est d'arrêter l'artificialisation. Donc il y avait une loi zéro artificialisation nette en France qui est réduite essentiellement à néant, et d'arrêter le changement climatique, donc d'arrêter les émissions, et là encore, les actions sont pas à la hauteur des enjeux.
Merci pour ce mot de la fin, cette conclusion qui est toujours la même quand on fait des émissions sur l'environnement et sur notre planète. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delmo, mais un grand merci à toutes les deux. Tout de suite, on retourne dans le passé pour la chronique avec science. Au néolithique, les rôles étaient genrés, mais pas tout à fait figés.
Au néolithique, les rôles sociaux étaient-ils très genrés? C'est le cœur de l'archéologie du genre, une discipline pas tout à fait nouvelle, mais en ce moment en pleine effervescence, et ce n'est pas très étonnant. Nos sociétés interrogent aujourd'hui les rôles sociaux attribués aux femmes et aux hommes, et cela nous oblige aussi à questionner la manière dont nous regardons le passé, sans essentialisme ni anachronisme. Ces dernières années, plusieurs travaux sont venus bousculer des idées reçues. Par exemple, oui, les femmes préhistoriques chassaient, et oui, elles pouvait aussi participer à des activités physiques intenses. Cela n'empêche pas qu'il y ait eu certaines normes très genrées, très tôt dans l'histoire humaine, et pour les identifier, on dispose de plusieurs types de preuves. Sébastien Villotte est chargé de recherche CNRS au laboratoire éco-anthropologie du Musée de l'Homme.
La principale, peut-être, ça va être le traitement funéraire. On va chercher dans le traitement funéraire si les individus masculins ont du matériel ou une position ou une structure d'inhumation qui va être différente des individus féminins. Une autre approche qui est assez ancienne, c'est l'étude des squelettes. On va essayer de regarder si on a des individus qui vont avoir des différences au niveau du squelette qui peuvent être associés à ce que les gens ont fait durant leur vie, ou ce qu'ils ont subi durant leur vie. On peut regarder les traumatismes. Est-ce que les individus féminins ont plus de traumatismes que les sujets masculins? Ou est-ce qu'il y a des différences de croissance? On peut regarder le matériel qui est dans la tombe, qui peut nous dire des choses sur ce que les gens ont fait durant leur vie. C'est très connu, par exemple, avec la tombe de Birka, où on a retrouvé de l'armement dans une sépulture qu'on considérait comme étant une sépulture masculine, et quand on a fait de l'ADN sur le squelette, on s'est aperçu qu'il y avait deux chromosomes X. Donc on a ces approches-là. On a des approches un peu plus techniques. On peut regarder, grâce aux isotopes, les alimentations différentes entre les sujets masculins et féminins.
Un exemple concret, certaines modifications osseuses au niveau du coude, des genoux ou du pied peuvent traduire des usages répétés et intenses de ces articulations et donc des activités spécifiques. Tout l'enjeu de cette nouvelle étude parue dans l'American Journal of Biological Anthropology, c'est de trouver des invariants, c'est-à-dire des différences constantes entre hommes et femmes dans des groupes, dans des lieux et à des dates différentes. Et il ne s'agit pas tout à fait d'une découverte, mais d'un réexamen de deux sites néolithiques. Ça se fait beaucoup en archéologie, étudier d'anciens sites à l'aune de nos connaissances actuelles, mais tout en travaillant avec les personnes qui les ont fouillés pour la première fois. Ces deux collections néolithiques comptent 125 squelettes au total et elles sont radicalement différentes. D'un côté, nous avons Polgar Ferentiat, daté d'il y a 7000 ans environ. Tous les individus, hommes et femmes, sont inhumés du côté gauche. Ils ont très peu de matériel avec eux. Et puis, à 3 km de là, Polgar Chesalom, l'autre site donc, un tout petit peu plus récent. Et là, les femmes sont toutes tournées vers la gauche. Les hommes sont vers la droite. Les femmes ont des ceintures de spondyles, des parures de coquillages. Les hommes ont des outils en pierre taillée, très genré dans la mort donc, mais l'était-il dans la vie? Oui, sauf pour une femme.
Pour les deux collections, on observe des lésions au niveau du coude qui collent avec cette idée d'invariant. Donc, quel que soit le statut dans la mort, on a quand même quelque chose qui semble indiquer une division en genre et des tâches très forte, et qui transcende ces deux groupes et qui transcende tout. On s'est dit, ok, on va continuer l'étude, et c'est là où on arrive sur des études plus fines et sur des marqueurs de posture. Pour la collection de Chesalom, où c'est très genré dans la mort, on a regardé les marqueurs de posture et on a vu que les individus avec des outils en pierre polie avaient des marques d'agenouillement beaucoup plus fréquemment que les autres. Il s'avère que ces individus sont essentiellement des hommes, donc on s'est dit « Ah, on a quelque chose qui colle entre le sexe, l'activité pratiquée et le statut dans la mort. » Peut-être quelque chose qui correspondrait à de la spécialisation, quelque chose comme ça. Et on a quand même un individu féminin qui est enterré et qui regarde vers la gauche, comme une femme, pour ce site-là, mais avec cet objet qui est un objet typiquement masculin, et avec ses marques d'agenouillement.
Cette femme cumule donc deux attributs masculins du site, des objets ainsi que des marques sur les orteils, mais elle reste couchée du côté gauche. Elle a donc exercé une activité plutôt masculine tout en conservant ce statut social dans la mort. Alors ça ne remet pas en question une division genrée entre la vie et la mort, mais cette étude montre que si les normes existaient, elles n'étaient pas tout à fait figées. La suite, ce sera d'ajouter les autres preuves archéologiques que nous avons déjà citées. D'un côté, des analyses isotopiques pour déterminer la nature du régime alimentaire, et puis de l'autre, la paléopathologie pour identifier d'éventuels stress pendant la croissance afin de voir s'il y avait des différences ou des similitudes entre ces Hongrois et Hongroises du néolithique.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond CJ. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Élise Le. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.